Une nouvelle visite radiophonique avec Nelly Lafont du Pays d'Art et d'Histoire, Mandelotte, Angers-Vaudan. Salut Nelly.
Salut.
Et Caroline Entreg du CAUE de la Lozère, Conseil d'Architecture, d'Environnement et d'Urbanisme. Salut Caro.
Bonjour.
Alors, on va aller où aujourd'hui?
Alors, on quitte Mende, ça y est, on a terminé les visites sur Mende. Pour une visite un petit peu particulière, on part en voyage, on va prendre le train. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entreg.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte Angers-Vaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Allez, on arrive à la gare sous un temps pluvieux, la gare de Mende.
C'est ça, et donc on va prendre le train pour la Bastide de Puylaurens et on va donc emprunter la fameuse ligne du Translozarien.
Donc le quartier de la gare, je crois que tu le connais, Ludo, tu as fait la visite normalement au mois de novembre. Donc la ligne qu'on emprunte aujourd'hui comme la ligne Elie, c'est le Translozarien. Et si on regarde les voies de chemin de fer en Lozère, en fait on a un réseau qui est en H. Voilà. Et nous empruntons la barre du H, c'est-à-dire qui relie deux axes qui sont plutôt principaux à l'échelle de la France, donc l'axe nord-sud, l'axe Paris-Béziers et l'axe Le Puy-en-Velay-Nîmes. Et donc nous, on va prendre la petite transversale de cette ligne qui permet de rejoindre les deux gares du Monastier et de la Bastide. Alors, cette ligne, c'est le résultat d'une volonté politique, mais aussi une succession de ratages, de hasards, de renoncements. Et on va voir que sur l'ensemble du tracé, la construction de cette ligne de 77 km, elle a rien d'évident, parce qu'en fait, elle traverse la Lozère, qui est un paysage avec une forte topographie. Donc du coup, on va voir ensemble, pendant cette 1h10 de trajet en train, comment les 77 km de cette ligne ont été difficiles à faire de par la topographie de la Lozère, mais aussi les contraintes hydrologiques. On va traverser plusieurs fois le Lot et on va voir bien sûr tout ce qui a été fait pour façonner le paysage et on va voir comment la ligne de train a été elle-même façonnée par ce paysage un petit peu complexe.
Et historiquement, voir pourquoi elle est passée par là. J'imagine qu'il y avait des tensions, des moments politiques peut-être qui ont fait passer ce chemin par cet endroit plutôt que par un autre.
Tout à fait, on le verra le long du trajet. On verra aussi avec Caroline ce qu'on peut voir de nos fenêtres, donc des lectures de paysages, les ouvrages d'art. Et l'histoire aussi du lieu où se trouvent les gares de barrières, ce genre de choses. Avant qu'on commence sur l'histoire de la ligne, quelques petits repères chronologiques, on va dire. Ludovic, est-ce que tu sais quand est apparu le premier train
en Lozère?
En Europe. Non, d'abord en Europe.
En Europe, compliqué. Donc c'est 1815, 1820.
Non, c'était un petit peu avant, 1804, au Pays de Galles. Et puis après, tu as raison, en 1823, c'est le premier train qui arrive en France sur la ligne Saint-Étienne à Andrézieux. Il va falloir attendre 20 ans pour que le premier train arrive en Languedoc, dans la région d'Alès. Pourquoi la région d'Alès? Parce que cette région est pourvue en mines et qu'il faut un moyen de transporter les matériaux. Et il va falloir encore attendre 30 ans plus tard pour que le premier train, la première ligne de chemin de fer soit construite en Lozère. Donc ça veut dire que la Lozère, c'est la dernière préfecture à être équipée en voie ferrée. On n'était pas très en avance. Juste, on va bientôt composter, monter dans le train. Juste rappeler, donc, comme l'a dit Caroline, on va voyager pour 1h10. Sur un train qui s'appelle le RTGX 73500, qui appartient donc à la région Occitanie, qui a une vitesse maximale de 160 km/h, mais nous ne dépasserons pas le 55 km/h parce que la voie sur laquelle nous allons voyager ne le permet pas.
Allez, rentrons dans la gare, se réchauffer.
Bienvenue à bord de ce train TER à destination de Nîmes. s'établir à l'égard de Bagnols-Chadonnet, Alenque, Belvété, Chastradès, La Bastide-Saint-Laurent, Villefort, Génolac, Chamborigo, Saint-Cécile-d'Andorge, La Levade, Saint-Grand-Comble-la-Pise, Alès, Saint-Genès-de-Malvorès et Nîmes sont terminus arrivés prévus. 15h03. Je vous rappelle que vous devez être muni d'un titre de transport valable et composé. Si ce n'est pas le cas, merci de vous présenter au contrôleur. Je vous rappelle également que ce TER est en classe unique et entièrement non-fumeur. Nous vous souhaitons un agréable voyage pour vos chaînes gardes desservies, Bagnols-Chadonnet.
Et voilà, ça y est, on est dans le train. Alors, est-ce qu'on a un billet valable et composté, Nelly?
Ah oui, on a fait les choses bien.
Donc c'est parti pour la découverte de ce translozérien. On est au chaud, il pleut dehors, il fait froid. On est bien, c'est agréable. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir pendant ce trajet, Nelly?
Alors on va découvrir l'histoire de la ligne et surtout tout l'environnement qu'il y a autour, comment elle a façonné le paysage qui lui aussi a eu son impact sur ce tracé.
Là, comme tu le vois, on vient de passer une partie creusée dans le calcaire. Donc on va passer la première partie du trajet à Longer-le-Lot, dans ce paysage de calcaire. On vient de passer là, juste à l'instant, le pont de Mirandol, qui est le deuxième pont de type Eiffel, après celui des Salelles, le plus important de la Lozère. Donc ça a remplacé un ouvrage qui était en pierre. Voilà, donc on va se promener dans ce paysage de feuillus typique de la vallée du Lot. Et surtout, voilà, on va avoir le Lot des fois à notre droite, des fois à notre gauche. Et on va voir tous ces petits aménagements nécessaires pour la traversée de cette rivière.
Quand tu dis de type Eiffel, c'était une période où on copiait ce type-là, comme le viaduc de Garabit, par exemple?
Oui, c'était juste, on a industrialisé la construction des lignes de chemin de fer, donc on a utilisé des matériaux qui étaient du coup les matériaux industriels de l'époque. On va voir, on a 8 ponts sur le Lot durant tout ce trajet. On a également 11 tunnels, 4 viaducs, 8 galeries anticongères qu'on va voir. Et à chaque fois, on a utilisé des matériaux industriels, le béton, le métal et pas mal de parmentière également.
Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même adapté ce type de construction à notre territoire. Donc on va retrouver aussi, des fois, le matériau local. Alors juste quelques dates sur le chemin de fer en Lozère. Donc la première construction de chemin de fer date de mai 1870. C'est l'ouverture au public et au trafic de marchandises de la ligne Brioude-Alès, qui passe donc par Langogne. Après, en mai 1884, le premier train arrive en gare de Mende et de Marvejols simultanément. Et on va voir justement qu'il va y avoir une espèce de concurrence entre ces deux gares par la suite. Et puis, en 1902, ouverture au trafic de la ligne de la Bastide sur laquelle nous nous trouvons.
Donc là, on a le Lot sur notre gauche. Et puis, on va le traverser au viaduc de Gragneret, excusez-moi. Voilà, qui est un magnifique pont qui est très peu visible et qu'on connaît quasiment peu. En fait, il est seulement visible depuis le Lot, donc parce qu'on est pêcheur. Voilà. Mais ça vaut vraiment le coup de le voir parce que c'est un des ouvrages d'art les plus remarquables avec le viaduc de Mirandol qu'on verra un peu plus loin. Il est constitué de 5 arches, dont une qui est surmontée de 6 autres petites arches. Donc c'est une grande arche avec des petites arches par-dessus. Il est vraiment remarquable. Et donc, c'est l'un des plus élégants. Tiens, voilà, la photo juste là, que vous ne verrez pas à la radio, forcément.
Donc là, on longe le village de Badarou.
Oui, alors Badarou, c'était la première halte après la gare de Mende. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus. La gare est toujours est désaffectée. Et Badarou était, donc au Moyen-Âge, le fief de l'évêque de Mende, hein, qui avait donc toutes ses possessions dans la vallée du Lot. À Badarou, le train était une histoire de femmes. Une affaire de femmes, c'était les femmes qui tenaient la gare. Et ici, comme partout ailleurs en fait en Lozère, le train va changer la vie des habitants qui vont petit à petit vivre au rythme des allées et venues des trains en gare. Voilà.
Pourquoi c'était une affaire de femmes?
Alors parce que souvent, en fait, les veuves de cheminots étaient prioritaires pour être garde-barrière. Donc elles étaient privilégiées à ce niveau-là. Et puis après, de génération en génération, on se transmettait ce complément de salaire, enfin cette activité qui était un vrai complément de salaire pour les ménages, voilà, femmes d'artisans, d'agriculteurs, ce genre de choses. Donc c'était plutôt une affaire de femmes.
Donc là, Ludo, on est sur la partie la plus proche du Lot et on est en train d'être sur la partie aussi la plus enclavée. On traverse beaucoup de tunnels, beaucoup d'enrochements et de talus, ce qui fait qu'on voit très peu le paysage. Mais là, juste après Badarou, on commence à voir justement les plantations de pins d'Autriche hein, qui commencent à apparaître. On longe également la route nationale et toujours le Lot. Donc on a les trois voies principales de communication qui se sont toutes insérées le long du Lot. Alors historiquement, quand on était à pied, les chemins historiques hein, se faisaient plutôt sur les crêtes à flanc de plateau, comme par exemple à la Rouvière, où on voit encore des grands chemins, donc tout ce qui était chemin à pied qui se passait sur les plateaux. Et donc là, sur ce territoire très contraint du Lot, on a à la fois la route nationale, le Lot et la voie de chemin de fer. Donc on va traverser à plusieurs reprises la route nationale, enfin la route départementale aujourd'hui. Et là, tu vois, on commence un petit peu à monter et on va voir la végétation se transformer.
J'imagine qu'on va en parler après, mais ça a dû être un très grand travail de décaissement. On a mis combien de temps pour construire cette voie de chemin de fer ?
Alors ça s'est fait en deux tranches en fait. Il y a eu d'abord la première tranche, le monastier Mende, puis après le tronçon Mende-La Bastide. Et ces deux grands chantiers donc, qui ont nécessité énormément de main-d'œuvre. Donc d'abord une main-d'œuvre locale. Donc il faut voir déjà là le train comme un premier élan de l'essor économique du territoire, parce que ça va mobiliser une main-d'œuvre locale et évidemment aussi une main-d'œuvre spécialisée, notamment les Luxembourgeois. Donc il y a le fameux le Luxembourg situé à côté de Balsiège qui était un baraquement d'ouvriers. Donc on sait qu'il y a eu à un moment donné entre 350 et 400 ouvriers luxembourgeois qui sont venus spécialement pour la construction de la ligne de chemin de fer. Et alors pour répondre à ta question, combien de temps a duré le chantier a duré 30 ans.
Pour combien de kilomètres ?
77 kilomètres de Mende à la Bastide. Et là, nous nous empruntons seulement 34 des 77 kilomètres.
Ce qui nous fait 2,5 km par an. C'est très, très peu. Hein.
C'est pas beaucoup. En plus, c'est un chantier qui va être périlleux, voilà, souvent dangereux, pénible. On va changer d'avis en cours de route, donc on va commencer à construire des tunnels, enfin à creuser des tunnels, puis finalement on va l'abandonner, mais ça on en reparlera quand on sera sur le secteur d'Alenque. Donc oui, ça a pris beaucoup de temps, mais parce que, comme le disait Caroline, le paysage est encaissé, on est dans une vallée, donc il faut beaucoup d'aménagement.
Oui, ça nous fait mesurer la difficulté des travaux de l'époque.
Et puis là, on est sur une roche très friable, la roche calcaire. Donc on a beaucoup de tunnels qui sont aussi effondrés, des talus qui sont également effondrés. Donc il a fallu refaire pas mal d'ouvrages dû à cette question géologique.
Ça me rassure.
Donc là, on s'éloigne un petit peu de la route nationale. Tu vois, on a commencé à monter un petit peu en altitude. On voit apparaître un petit peu de schiste par moment. Et on est en train de traverser les trois ruisseaux qui descendent du plateau de la Margeride pour rejoindre le Lot par le biais de plusieurs viaducs. Donc on va commencer par le viaduc du Bousquet qui franchit le Buissé. Et là, on est justement sur l'un des viaducs, donc qui est le viaduc du Nojaret, qui fait 138 mètres.
Donc on va au loin Sainte-Hélène, donc qui est un petit village qui avait à l'origine un garde-barrière. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un passage à niveau. La petite particularité qu'on peut dire à Sainte-Hélène, c'est que les habitants à l'époque ont demandé qu'il y ait un passage pour les troupeaux, en fait. Donc il y a un système de passage qui permet de passer au-dessus et un peu plus loin au-dessous de la voie qui permettait donc d'amener les troupeaux dans les pâturages. Et c'est à partir de là qu'on quitte définitivement le Lot.
Donc là, pour préciser, on va traverser en ruisseau la Rouvière, l'Esclincide et le Bérac. Voilà, et on voit la topographie bien marquée, de plus en plus marquée. Et là, on arrive vraiment au sommet du plateau. La végétation est en train de changer. Là, on est en train de retrouver les pins. Et on dit au revoir aux prairies inondées du Lot. Hein.
Premier arrêt, Bagnoles-Chadonnay.
Un premier arrêt, Bagnoles-Chadonnay.
Oui, donc on est ici sur une gare typique. On a la gare, mais également l'hôtel. Alors, on n'est pas tout à fait à Bagnoles, mais Nelly vous expliquera pourquoi. On est à Chadenay et on est un petit peu à côté du village. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la gare et l'hôtel servent de résidence principale ou résidence secondaire. C'est le cas à peu près partout en Lozère. Et après, on a aussi des soucis avec ces fameux hôtels contre la gare qui deviennent aujourd'hui des friches, voilà, qui sont très peu utilisés.
Alors effectivement, pour reprendre ce que vient de dire Caro, on est à la gare de Bagnoles-Chadenay. Elle porte ce nom parce qu'à l'époque, le conseil municipal de Bagnoles refuse que le train arrive chez eux pour respecter la tranquillité des curistes. Donc la gare est construite ici entre Chadenay et Bagnoles et les curistes étaient amenés jusqu'à Bagnoles-les-Bains en voiture-chevaux.
Et donc là, il n'y a rien, il y a juste la gare ici où on est. Il n'y a pas d'habitation?
Non, on est vraiment... En réalité, on a passé Chadenay. On est vraiment... on commence à aller direction Alenc. Voilà. Et là, on va monter sur une pente d'environ 27% jusqu'à l'Arzalier. Donc, on va vraiment quitter maintenant la vallée du Lot. Et là, on va monter de manière très dense hein, jusqu'au plateau de l'Arzalier. Donc on part à 960 mètres d'altitude à la gare de Bagnoles-Chadenay pour arriver à 1215 mètres d'altitude à l'Arzalier.
Pour donner quelques chiffres et se rendre un peu mieux compte en fait de cette ligne, on comptait près de 25 gardes-barrières et passages à niveau sur cette ligne. Et ces modestes emplois, comme on l'a dit tout à l'heure, étaient en priorité accordés aux veuves et aux veuves de cheminots et puis après aux femmes qui permettaient comme ça un complément de revenus au foyer. Ici à Bagnoles-les-Bains, comme on en reparlera à Saint-Laurent-les-Bains, enfin à la Bastide, le train, enfin l'arrivée du train à proximité de ces stations thermales va favoriser en fait le développement économique et le tourisme thermal.
Et puis il y a des gares qui vont se spécialiser, notamment sur les produits de scierie. On peut nommer la gare de Chanac, la gare de Barjac, la gare de Balsiège, celle de Mende, également un petit peu celle de Bagnoles, et qui vont servir pour l'implantation d'entreprises spécialisées dans le secteur du bois. Et on va avoir comme ça plusieurs entreprises qui vont s'installer le long des chemins de fer.
Évidemment, le train va désenclaver dans une certaine mesure le pays, donc qui va pouvoir s'ouvrir sur l'extérieur. Ça a été, à contrario, une crainte de certains élus que le train favorise en fait l'exode rural aussi, hein, de permettre plus facilement aux jeunes, aux hommes, de quitter le pays.
Donc là, tu vois, la roche est en train de changer. On bascule sur le granit. On n'a pas forcément que des sapins. On commence à voir également des pins. Et puis, on commence à avoir des parties de plateau un peu plus plates où on voit ces blocs de granit dans le paysage. On est vraiment là en train de basculer sur la deuxième partie des unités paysagères de ce trajet.
Voilà, on est arrivé à Alenc.
Voilà, donc Alenc, un très beau village du Pays d'Art et d'Histoire. Sur ta droite, tu as un ancien manoir. Et si tu lèves les yeux sur ta gauche, tu vois le clocher-peigne de l'église d'Amin, qui est une des plus belles églises du département, qui a la particularité d'être la seule église à avoir conservé, il n'y en a que trois en Lozérin qui sont sur ce plan-là, à avoir conservé les trois feuilles de son chevet. C'est-à-dire qu'elles ont un chevet tréflé, on peut dire, donc avec trois absidioles. Et c'est la seule de ces trois églises à avoir conservé les trois feuilles de leur trèfle.
Le manoir, il est propriété privée
C'est une propriété privée et ça me donne l'occasion de rajouter que donc Alinque était une des 12 seigneuries qui ponctuaient le territoire à l'époque médiévale.
Ah, ça y est, on commence à monter, le paysage a encore changé.
Oui, là, du coup, on est à proximité du hameau de l'Altaré, qui fait partie de la commune d'Alinque, et on va basculer, là, on va le voir, sur un paysage agricole ouvert, composé de grandes prairies naturelles avec des zones humides, comme on le voit juste sur notre droite. Et le train va effectuer deux grands S pour arriver à monter jusqu'au plateau de la plaine de Montbel. Et là, on va se confronter aux questions météorologiques et aux conditions climatiques. Parce qu'il faut savoir que la transversale lozérienne, donc le translozérien, a toujours été la voie la plus fréquemment interrompue par les neiges. Voilà, notamment ici. Et donc, on a 31 km de voie à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc, c'est un cas unique en France. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le train du toit de la France.
C'est le train le plus haut en France ?
Alors, c'est pas le plus haut, c'est le train non électrifié. Voilà, le plus haut de France, exactement. Donc là, on est à 1215 mètres d'altitude. Et on va rester sur 1000 mètres pendant à peu près 31 km, donc jusqu'à la Bastide. Donc là, tu peux voir juste en face une grande galerie, voilà, qui est une galerie anticongère, avec derrière des bois, donc 4 hectares de bois, qui ont été plantés justement pour contrer le climat. Alors le train, il a été inauguré en 1902, et il sera bloqué 3 mois plus tard, à cet endroit même, sur le plateau de l'Arzalier. Même le train chasse-neige restera bloqué, mais du coup les passagers seront obligés de passer la nuit chez le garde-barrière, ou la garde-barrière, on ne sait pas. Et donc cet incident conduira à la construction entre 1906 et 1907 de 8 galeries par neige, donc ce qui est assez unique en France, sur toute cette partie du parcours. On va passer la première galerie par neige à la Prade, et ensuite on a deux galeries à l'Arzalier, puis on va en trouver une autre à la Crouzette, une autre à la Vessière et une autre à Chasserades. Donc ces galeries, elles sont construites en béton, avec un petit peu de pierre, mais là l'idée c'est vraiment de se protéger du climat, parce que là sur ce plateau, il y a les phénomènes de tourmente, dont on a déjà parlé ensemble, de congères, donc c'est vraiment des contraintes climatiques extrêmes pour un train non électrifié.
Alors évidemment, c'est toutes ces constructions qui vont être apportées pour améliorer en fait cette voie sur ce circuit-là, en fait, ne résoudront pas tous les problèmes, puisqu'il va y avoir encore des trains bloqués hiver 85, hiver 86. Il y a encore pas mal de Lozériens qui s'en souviennent. Et on a retrouvé pas mal de plaintes en fait, hein, de passagers qui se plaignaient donc des portes du train qui fermaient mal et donc il faisait très froid. Beaucoup de réclamations sur la température à l'intérieur des wagons, des voitures voyageurs. Pendant les hivers, en fait, on avait des bouillottes qui étaient distribuées aux voyageurs par des lampistes à la gare de La Bastide et à la gare de Mende. Et donc, ils avaient pour mission de remplir ces bouillottes d'eau et de les récupérer et d'assurer ainsi des rotations pour que les voyageurs aient un petit peu moins froid.
L'an dernier, il y avait eu un train bloqué il y a 5-6 ans aussi. C'est quand même régulier, hein. Tu parles d'il y a quelques années, mais ça se poursuit quand il y a des gros épisodes neigeux.
Oui, tout à fait. Oui. On a même eu des épisodes où le train chasse-neige était lui-même bloqué.
Alors, une construction difficile qui a pris du temps. On se retrouve dans un endroit où les intempéries peuvent revenir chaque hiver. On est obligé de construire des galeries par neige. Pourquoi tu nous as dit tout à l'heure que tu reviendrais dessus. Pourquoi cette ligne a décidé de passer par là ?
Alors effectivement, c'est un chantier qui a été un petit peu laborieux, mais même l'histoire de la ligne est assez chaotique. Il y a eu plusieurs tracés, plusieurs études, on le voit, on a énormément de dénivellation. Et donc on sait déjà qu'en 1902, la ligne elle est déjà considérée comme déficitaire. Donc ça montre qu'on a de grosses difficultés à la faire correctement fonctionner. C'est à l'époque la Compagnie du Midi qui en est concessionnaire. Alors pourquoi ce choix du débouché Mende-la-Bastide ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le trajet initial devait relier Mende à Langogne pour rejoindre plus rapidement le Puy. Un budget de 20 millions de francs est adopté à l'époque, mais les élus lausériens craignent que le train contribue à la désertification du pays. La liaison Mende-le-Blémar-Villefort est également étudiée. Et finalement, entre Langogne et Villefort, c'est la Bastide qui est choisie en 1895 sur l'insistance des représentants locaux qui pensent ainsi désenclaver tout ce plateau sur lequel on se trouve.
Le budget il passe de 20 millions de francs à 8 millions de francs, donc c'est pour dire à quel point le tracé a été aussi un choix économique.
Donc une réduction budgétaire qui va entraîner aussi l'abandon des percements de tunnels sur ce secteur-là. Donc un tracé qui met vraiment en relief des conflits d'intérêts politiques et financiers.
Alors on a loupé l'enregistrement de l'arrêt en gare de Bellevesée, mais ça y est, on vient de passer, c'était notre troisième arrêt, Caron.
Oui, donc la gare elle sert d'hébergement saisonnier maintenant pour les cheminots vacanciers, et la commune a également un projet assez atypique d'hébergement insolite dans des wagons, voilà, qui devrait, on espère, voir le jour. Bon, ça c'est un peu pour l'anecdote, mais donc ici, le bassin versant du Lot, s'arrête et on bascule sur le bassin versant du Rhône. Donc on est à peu près à hauteur du col de la Pierre Plantée pour vous repérer. Hein. Voilà.
Ouais, j'allais te dire, on a gagné en altitude, on voit de la neige sur les montagnes.
Et oui, et là on va commencer à redescendre lentement vers le terminus qui est la Bastide, qui est à 1023 mètres d'altitude. Donc à l'Arzali on était à 1215 pour rappel. Donc là on est sur la partie plateau qui oscille à peu près entre 1000 et 1002. Le paysage se transforme, tu peux voir, on voit les pins, on a un paysage qui est beaucoup plus ouvert, une végétation qui est beaucoup moins fournie que dans la partie vallée du Lot. Et donc on a plutôt des prairies naturelles avec des pins, beaucoup de boules de granit, des genêts, quelques bouleaux. Et tu verras sur les piquets agricoles, on a parfois réutilisé les matériaux du chemin de fer.
On vient de passer le pont de Mirandol.
Oui, alors c'est le deuxième plus grand beau pont de ce trajet. Alors il est assez magnifique, c'est vraiment la carte postale pittoresque de la Lozère, on le retrouve beaucoup sur les cartes des débuts du siècle. Alors il fait, attention, 30 mètres de haut, 120 mètres de long, et alors il possède plusieurs séries d'arches qui sont implantées en fonction du coup du relief toujours, hein. Donc des fois on enjambe le Chassezac, puisqu'ici on est à côté des sources du Chassezac, pas très loin à Chasseradès, on a les sources de l'Allier. Voilà, donc on a vraiment basculé de bassin versant. Et donc le viaduc s'insère entre les maisons, entre le Chassezac et entre ce relief hyper marqué. Et c'est vraiment l'un des ponts les plus remarquables de Lozère.
Alors on est à Chasseradès, et pour la petite histoire, en 1878, ce village, sans le savoir, entre en écriture avec l'arrivée de Robert Louis Stevenson et de son âne Modestine, qui vont être les témoins des travaux de la voie. Il part le 22 septembre au Duvelet et fait une étape le 28 septembre à Chasseradès, et il raconte: je trouvais ce soir-là dans la cuisine de l'auberge des hommes occupés à lever des plans pour un des chemins de fer en projet. Ils étaient intelligents et communicatifs, et nous décidâmes de l'avenir de la France en buvant du vin chaud jusqu'au moment où, surpris par l'heure tardive, nous allâmes nous coucher. Il y avait 4 lits dans la petite chambre du haut et nous y dormîmes à 6. Le lendemain, alors que la lumière commençait à poindre avant d'inonder le plateau, Stevenson se fit réveiller par un « Hé, bourgeois, il est 5 heures !»
Voilà, on arrive à la Bastide. Petite gare de la Bastide.
Oui, alors comme tu le vois, cet axe, le translozérien, n'était pas un axe principal. On a vraiment les deux tangentes, hein, nord-sud de chaque côté, qui étaient vraiment des gares à l'échelle nationale. Et c'est vrai qu'on arrive ici à la gare de la Bastide, qui est une gare quand même assez importante, mais qui n'est pas forcément ce qu'on attend d'une gare à l'échelle nationale. Alors peut-être juste un petit peu d'architecture sur la question des gares. Celle-ci, elle est assez mignonne parce qu'elle a gardé un peu son côté authentique avec notamment le mobilier en bois. Alors les gares, c'est comme pour les chemins de fer, tous les ponts, les tunnels, les viaducs que l'on a vus, c'est vraiment lié au début de l'industrialisation. Et donc elles apparaissent en Angleterre en 1820 à peu près, puis en France, et on voit chaque année, chaque époque correspond à sa gare. Donc là on est dans les années 1920 avec un style assez classique. On retrouve toujours le même fonctionnement, le rez-de-chaussée, l'accueil des voyageurs, l'étage, le logement des cheminots. Et puis après le lieu est gravé sur la pierre de la façade principale, avec l'altitude également qui est importante pour nous. Et puis on retrouve également tout ce qui est auvent, couverture, avec cette structure métallique qui fait également partie de l'industrialisation de l'architecture.
Donc on arrive à la fin de cette émission. L'anecdote pour briller en société, Nelly?
Alors on a tous nos petits secrets, mais à la Lozère aussi. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la ligne secret défense de Larzallier-Charpal?
Absolument pas.
Eh bien, figure-toi que dès 1921, la Poudrerie nationale de Toulouse pose son dévolu sur le plateau du Roi pour créer, loin de tout, sur ce site quasi inhabité, un dépôt secret immergé pour stocker notamment les poudres dues par les Allemands de la guerre 14-18. Donc, une ligne secrète de 15 km vient relier le lac de Charpal, puisqu'il est construit pour ça, en fait, hein, à Larzallier, où nous sommes passés, en passant par le col de la Pierre Plantée, où l'on voit encore la maison du garde-barrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ligne va servir au chantier de la retenue d'eau, mais que jamais les poudres et les munitions n'y seront entreposées. Donc, en 1939, cette ligne militaire, dont on ne connaissait pas la véritable destination, est déferrée. Et aujourd'hui, donc, n'est visible que ce fameux garde-barrière. Voilà, et puis pour ajouter une petite anecdote, donc, avec cette ligne, un nouveau record d'altitude nationale est atteint avec 1388 mètres.
Côté actualité?
Alors, côté actualité, ben, y a deux trains par jour, du lundi au jeudi, le reste se fait en car. Après?
Donc, il y a des travaux sur la ligne qui vont être en cours du 23 mars au 19 juin. Bien sûr, tout ça est géré par la région, ce qui permet aujourd'hui d'avoir aussi les tickets à 1 euro.
Et le mois prochain, on va aller où?
Alors, figure-toi que comme on est dans le coin, on va profiter d'être par ici pour aller dire bonjour à un petit personnage, enfin un grand personnage que tu connais bien, le marquis de Morangiès. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'art et d'histoire mande et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.